Vivre FM podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Le nom de votre invité aujourd'hui, c'est Thierry Chavel.
Thierry Chavel, depuis 20 ans, il est coach professionnel. Depuis 20 ans, il écoute beaucoup pour aider chacun de ses clients à s'épanouir dans leur activité professionnelle. Mais voilà, depuis 20 ans, Thierry parle peu. Et le hic, c'est qu'en prenant soin des autres, eh bien, il a oublié de prendre soin de lui jusqu'au jour où il rencontre le burn-out. Alors je parle de véritable rencontre parce que le burn-out, nous pouvons tous le croiser à un moment donné sur notre chemin. Et dans le cas de Thierry, eh bien, cette expérience lui a permis d'aller mieux et de surtout reprendre sa vie en main qui lui avait totalement échappé. Et il revient justement sur ce parcours de vie, sur cette épreuve, sur Vivre FM.
Vous dites que Thierry parle peu, tout de même, il va vous parler, il va nous parler jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Thierry Chavel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM. Aujourd'hui, vous êtes le grand témoin du jour et vous venez nous présenter ce livre qui est publié chez Flammarion. Livre intitulé « Je peux guérir ». C'est votre parcours de vie. Vous racontez qu'en pleine carrière, en plein succès professionnel, eh bien, vous rencontrez le burn-out. J'aime bien cette formule. Est-ce que le burn-out, on le rencontre? On peut parler de rencontre.
Ouais, en fait, on rencontre un petit bout de soi qui était déjà en burn-out. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir rencontré un reborn, quoi. J'ai l'impression, vous savez, les Américains, ils parlent de start over. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais c'est vrai que c'est une rencontre, et c'est une rencontre inattendue.
C'est une rencontre et en tout cas, un changement de vie, en tout cas, radical. Et votre histoire, c'est la preuve que le burn-out peut arriver à tout le monde. On va y revenir tout au long de cette émission. Mais personne n'est à l'abri de ce mal. On peut le qualifier le mal du siècle. On a l'impression qu'on entend... C'est un peu le mot à la mode, mais...
Oui, je ne sais pas si c'est le mal du siècle. En tout cas, les états de déprime au travail me paraissent plus fréquents que les états de motivation. Et c'est surtout la face cachée de l'hypermotivation. Moi, j'étais exalté par mon boulot, passionné. Et censé être indemne de ça, puisque je suis censé accompagner les autres en situation de déprime. Et ben voilà, ça m'est tombé dessus, comme tout le monde.
Oui, parce que dans votre travail, on va y revenir, vous aidiez les personnes à trouver le bonheur dans leur univers professionnel. On va y revenir tout au long de cette émission. Pourquoi, en tout cas, ça a été important pour vous de témoigner et de publier ce livre?
Moi, j'avais écrit une dizaine de bouquins de management, de coaching, dans lesquels j'expliquais comment on pouvait, voilà, adopter des bonnes pratiques, des attitudes qui vont bien pour être un dirigeant bien dans ses baskets. Et là, j'en avais fait le tour en termes d'essais, de concepts. J'avais envie de parler à la première personne, de montrer l'envers du décor, de raconter que être fragile, c'est à la fois une très bonne nouvelle, et puis c'est un grand tabou en entreprise. Voilà. Et je pense que ça avait plus de poids en racontant quelque chose d'authentique, plutôt qu'en donnant des conseils que je ne savais pas m'appliquer à moi-même. Quoi.
En même temps, c'était une sorte de continuité, parce que là, forcément, vous deviez faire partager votre expérience à des personnes qui étaient concernées et qui sont concernées.
Oui, mais je me suis rendu compte aussi qu'on ne s'attend pas à ce qu'un coach parle à la première personne du singulier. Vous savez, moi, j'ai eu plein des coachs, gens qui me disent « c'est super courageux d'avoir témoigné ta fragilité, ta difficulté ». Moi, je trouve que c'était juste la seule chose que je pouvais faire, quoi, de m'exprimer en mon nom propre. Et en montrant que j'étais dans la même situation que tous nos clients, que toutes les personnes qui rencontrent à un moment donné un mur et qui ne savent pas comment le franchir.
Donc ce livre, c'est une manière aussi de gérer ce genre de situation. Est-ce que c'est une manière aussi d'alerter certaines personnes qui seraient comme vous, à ne penser qu'au travail, à être des boulimiques de travail, et peut-être une façon d'alerter en disant « stop, il n'y a pas que ça ».
Oui, plus modestement, c'est une manière de dire c'est normal d'aller mal, y compris dans le monde du travail. Je crois que il y a un grand déni de la fragilité, de l'impuissance, de la vulnérabilité au travail. Et surtout, vous avez raison, dans la communauté des coachs, des consultants, des métiers de l'accompagnement, qui sont censés eux-mêmes être des parangons de vertu. Voilà. Donc moi, c'est plus un cri d'alerte pour dire ça m'a sauvé la vie de faire un burn-out.
Mais être fragile au travail, est-ce que c'est pas très bien vu, si? Est-ce qu'on peut se montrer fragile au travail?
Ben c'est tout le débat. Moi, je plaide pour le fait que la vraie puissance dans la vie professionnelle, c'est de se savoir fragile, que j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets depuis que je me suis autorisé à aller mal et à découvrir que le bonheur, c'est pas un état continu. Il y a des moments d'exaltation, puis il y a des moments de doute, et ça me paraît être une très très bonne nouvelle de vivre ces aléas. Voilà, c'est surtout le mot que j'ai mis sur mes douleurs qui a changé. C'est pas tellement les douleurs.
Alors, est-ce qu'on, du coup, on peut dire au travail, à ses collègues, à son employeur, est-ce qu'on a le droit de se confier, de dire qu'on traverse une période difficile et qu'on ne va pas très bien ?
Je suis pas sûr qu'on en soit là. Ça dépend des entreprises, ça dépend des environnements, mais je pense qu'on peut déjà commencer par se le dire à soi-même. Vous savez, il y a beaucoup de staccanovistes, de travaillomanes, qui font ça parce qu'ils sont addicts au travail. Moi, j'étais drogué du boulot, y compris d'un boulot qui consiste à écouter les autres, donc à faire quelque chose qui me semblait dans du développement personnel. Pour autant, c'était ma dose, que j'avais besoin d'être en sur-régime. Donc je pense que commencer par mettre sur pause avant de mettre sur stop, c'est un bon moyen d'arrêter d'être tout le temps en fast-forward. Moi, je pense que ma cassette, elle n'était pas en mode play, elle était en fast-forward.
Et déjà, il faut que chacun arrive à avoir conscience qu'il est en sur-régime, peut-être.
Il s'agit déjà d'écouter son corps. Je pense que les signaux, ils sont évidents.
Vous n'aviez pas conscience avant ça?
En fait, j'avais conscience que je vivais vite. J'avais pas conscience que je survivais. Moi, je fais une grande différence depuis le burn-out entre la survie et la vie. C'est-à-dire que être survivant, c'est avoir besoin d'être tout le temps sur la brèche, avoir un agenda rempli, avoir l'angoisse des temps morts. Voilà. Donc, j'avais conscience que j'aimais cette espèce d'adrénaline. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait vivre autrement, on pouvait aller plus lentement et être encore plus épanoui, encore plus tranquille, tout simplement.
Alors, on va revenir sur votre histoire avant ce burn-out. C'était quoi votre vie ? Vous étiez donc coach, vous receviez des cadres d'entreprise, des étudiants, des consultants, des politiques, parfois, tous en quête de bonheur professionnel. Donc, vous les coachiez, vous preniez soin d'eux sans prendre soin de vous. Vous parlez de dope quotidienne carrément, de dope au travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était votre quotidien, justement, une journée type, par exemple ?
Une journée type, c'était des mails avec des questions auxquelles il fallait répondre, qui s'enchaînaient avec des rendez-vous. Mes rendez-vous, ils duraient 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie parfois. Et puis, il n'y avait pas de temps mort parce qu'au déjeuner, je rencontrais aussi des clients, des personnes qui venaient requérir un peu d'aide, un peu de soutien, même si ce n'était pas dans un cadre contractuel. Et l'après-midi, même chose. Des mails, éventuellement des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous par Skype. Donc, c'était 8h, 20h non-stop. Ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression d'être présent, d'être extrêmement présent à tous ces gens-là, mais j'étais pas du tout présent ni à moi-même, ni à mes proches. C'est-à-dire que je pouvais rentrer le soir et être comme un boxeur qui a fait un round de trop, quoi. Oui, j'avais vraiment l'impression de redevenir Pinocchio sur le pantin désarticulé qui avait plus d'énergie. Et j'ai vécu longtemps dans ce régime-là.
Combien de temps, du coup, ça a duré?
Mais je pense 43 ans, Jean-Baptiste. Ça faisait 43 ans que j'étais dans cet état-là.
Vous écrivez que vous vous sentiez exister que lorsque vous étiez submergé, c'est ça ?
Je me sentais exister quand je me sentais utile. Et donc, c'est un peu le hamster sur sa roue. C'est-à-dire que plus je courais vite, plus la roue tournait vite. Donc, cercle vicieux absolu. Mais vous savez, vous êtes très flatté quand les gens vous sollicitent, quand vous vous sentez au service des autres. Vous ne voyez pas venir le danger. Et moi, je ne l'ai pas vu venir. S'il n'y avait pas eu les signaux du corps, je n'aurais rien vu venir. Je serais encore dans ce régime-là.
On peut parler d'addiction ? D'addiction au travail, d'addiction...
Oui, je pense qu'on peut parler en tout cas d'addiction au besoin d'être utile. Moi, je me rendais compte que c'était jamais suffisant. C'est un peu un puits sans fond, le fait d'aider les autres, parce que pour moi, c'était jamais assez bien. J'avais aussi un côté très perfectionniste. Je suis pas sûr d'avoir guéri. Hein. Le bouquin s'appelle « Je peux guérir », je suis pas sûr d'être guéri. Je suis pas sûr d'être incurable. Mais voilà, j'avais le plaisir d'en donner toujours plus. Et c'est vrai que le fait d'être submergé, c'est que c'était jamais assez, quoi. J'avais toujours le sentiment que je pouvais en faire plus pour les autres.
Et à quel moment ça a basculé, du coup ?
Il y a eu un jour, je me souviens, c'était au mois de juin 2015, où j'ai eu un mail. Et après avoir répondu à ce mail, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai été lessivé, physiquement lessivé. La tête qui tournait... Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est bizarre, je dois être surmené. Moi, j'avais souvent des états de fatigue et de surmenage, mais là, je me suis dit, c'est quand même plus que d'habitude, quoi. Donc, je suis rentré chez moi, puis je me suis dit, je vais passer une bonne nuit, ça ira mieux. Et le lendemain, ça allait pas mieux. C'est-à-dire que j'étais toujours dans cet état de... Vous savez, comme sur votre téléphone portable, quand la batterie est à zéro. Bon, bah, j'avais la batterie à zéro, mais j'avais pas la recharge. Et ça, c'est bizarre, parce que c'est vertigineux quand vous êtes habitué à être tout le temps sur la brèche. J'avais plus de jus, tout simplement.
Donc à ce moment-là, on dit, on va prendre des vacances, ça ira mieux. Ce que vous avez fait ?
On se dit, le week-end arrive. c'était un vendredi, je me suis dit ça va aller mieux après le week-end, puis ça allait pas mieux. Et c'est vrai qu'on était en juin, donc la perspective de l'été, du mois de juillet, moi je suis dans un métier où il y a une saisonnalité, donc en juillet, août, il se passe un peu moins de choses. Et en fait, le bouquin raconte 9 étapes, 9 mois, et c'était juste le début, quoi. C'était juste le début de la combustion, parce que l'été, j'ai découvert que il ne s'agissait pas de remonter sur le cheval, il s'agissait sans doute de changer 2-3 choses dans ma façon d'être un cavalier. Voilà, vous savez, il y a un moment donné où je ne savais plus qu'est-ce qui était la fin et les moyens dans ma vie. Est-ce que je bossais pour travailler? Enfin, est-ce que je vivais pour travailler? C'est un drôle de lapsus. Ou est-ce que je travaillais pour vivre, quoi? Et je m'étais mis à vivre pour travailler, je pense vraiment. C'est-à-dire, le travail était devenu ma raison d'être.
Et votre relation justement à votre entourage, à votre famille, il y avait des conséquences? Vous étiez comment avec eux, par exemple?
Bah, c'est eux qui pourraient en parler, mais je pense que j'étais pas là, j'étais pas vraiment présent, j'étais physiquement là, j'étais un peu le même, hein, c'est-à-dire que j'étais très actif, je faisais plein de choses, je faisais des courses, j'emmenais mes enfants à leurs activités, mais j'étais pas là. J'étais incapable d'écouter une conversation parce que j'avais tout simplement plus de mémoire vive disponible. C'est comme un ordinateur qui est saturé, donc le disque dur était plein, et en fait, pour ma vie privée, j'étais un peu irascible, j'avais pas beaucoup de disponibilité quand ils me posaient des questions. Je jouais pas avec mes enfants parce que j'étais juste dans un état de nerf qui faisait que j'étais sur interrupteur, donc on au travail, off en dehors du travail.
On a tendance à penser que le burn-out, c'est une dépression. Est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est différent?
Moi, je suis pas clinicien, donc je saurais pas trancher ces trucs-là. Pour être très sincère, et quitte à être un peu iconoclaste, je trouve que c'est un mauvais débat. Parce que ça soit une pathologie ou pas, de toute façon, c'est pas remboursé par la Sécu. Il y a des grands enjeux politiques en ce moment avec certains élus qui veulent à tout prix en faire une maladie professionnelle. Je pense que c'est un état dépressif, oui. Mais ma croyance, c'est qu'on est... Alors, si c'est le cas, on est très, très, très nombreux à être dépressifs. Je pense que l'époque est dépressive. Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être déprimé dans son travail aujourd'hui. Je trouve que on ne demande pas à Leonard Cohen, qui est mort il y a quelques temps, on ne lui demande pas s'il était déprimé. Je pense qu'il n'avait pas été déprimé, il n'aurait pas écrit les chansons qu'il a écrites. Donc c'est aussi un état de mélancolie qui conduit, à l'époque actuelle, à travailler beaucoup. Je pense que c'est peut-être une dépression professionnelle, le burn-out. Mais pas nécessairement chronique, pas nécessairement durable. C'est un état dépressif professionnel.
Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, vous avez dû écouter votre corps et changer un petit peu, changer votre quotidien et votre rythme, surtout votre rythme effréné et votre vision peut-être et votre relation au travail. Restez avec nous Thierry Chavel, on continue cette émission dans un instant. Votre ouvrage, il s'intitule « Je peux guérir », c'est publié aux éditions Flammarion.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la seconde partie du Grand Témoin avec Thierry Chavel. C'est notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Il vient nous présenter son livre « Je peux guérir » publié aux éditions Flammarion. Thierry, pendant 20 ans, vous étiez coach professionnel. Vous écoutiez des cadres d'entreprise, des étudiants, des consultants, tous en quête du bonheur professionnel. Mais à force de prendre soin des autres, vous avez négligé de prendre soin de vous. C'est un peu ce qu'on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un petit peu cette phrase qui peut résumer un petit peu votre vie, jusqu'au jour où vous avez rencontré le burn-out qui a changé votre vie. Vous dites que le burn-out a même sauvé votre vie. Pour quelle raison?
Parce qu'en fait, c'est avant le burn-out que j'allais mal. Dans l'état que je croyais normal, j'étais déjà au-delà de la ligne jaune, mais on est très nombreux dans cet état-là. Moi, je pense aussi que vous dites que voilà, pendant 20 ans, j'ai fait ce métier. En fait, j'ai pas changé de métier. Je continue à faire le même job.
Vous le faites différemment.
Mais je le fais très différemment. C'est-à-dire que j'avais probablement plus une logique de quantité qu'une logique de qualité de vie. C'était ça surtout qui m'a frappé. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir un agenda rempli, quoi. C'était angoissant pour moi quand l'agenda était vide, quand j'avais un rendez-vous qui s'annulait, il fallait absolument que je le remplisse par autre chose. Et j'avais toujours une to-do list qui faisait que j'avais des choses à faire, hein. L'idée d'accueillir le vide, d'accueillir le silence, d'accueillir les temps morts, ça a été une petite révolution. Donc c'est en ce sens, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai arrêté d'être dans ce mode de course à l'échalote, en fait, toujours après quelque chose que j'avais pas, qui était une saturation, de commencer à voir passer le temps. Voilà, j'ai changé mon rapport au temps, surtout.
Et ça vient d'où, cette course, justement est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est...
Dans mon cas, ça vient de la peur de la mort, Très simplement. Enfin, moi, j'avais tellement peur de vivre que j'avais plus trop peur de la mort, du coup. Donc, philosophiquement, j'étais tout à fait capable de conceptualiser là-dessus, d'aider mes clients à envisager des périodes de mort symbolique ou alors des expériences de mort dans leur vie, des deuils. Mais alors, en ce qui me concerne, j'étais phobique. Les temps morts, je supportais pas. Je pense que plus j'allais vite, plus j'avais l'impression d'abolir la mort. Et donc, je vivais 4 vies en une. Mais en fait, j'étais pas là. J'étais juste pas présent dans ma vie. Donc, j'étais grisé. J'alternais des moments d'exaltation avec de l'adrénaline et des moments d'abattement. Donc, en ce sens, c'était un état. Oui, vous savez, c'est un peu ce qu'on voit dans les films sur les traders, hein, qui décrivent un peu le monde de Wall Street. Je pense que j'étais dans cet état d'hyper-excitation et puis d'hyper-mélancolie. Et je m'étais habitué à ça. Ça faisait très, très longtemps que je fonctionnais comme ça.
Quels étaient, du coup, les signaux? Quels sont les signaux auxquels il faut qu'on fasse attention, auxquels vous auriez pu faire attention avant, qui peuvent traduire justement de ce burn-out?
Je pense que l'irritabilité, c'est un bon signal. C'est-à-dire quand vraiment le moindre grain de sable me mettait dans des états paroxystiques, d'agacement. Je suis resté assez colérique, hein, je pense, je ne suis pas sûr d'être guéri là-dessus. Mais en tout cas, je le vois plus venir. Et je m'énerve moins au quart de tour. Ça, je pense que c'est un sacré signal. Ça veut dire qu'on a
déjà...
Vous étiez
colérique avec vos patients, enfin avec les personnes...
Non, mais moi, je suis impeccable avec mes clients. Mais par contre, ouais, avec mes proches, avec mon entourage, avec mon assistante, j'étais probablement, vous savez, un peu comme un acteur qui, à partir du moment où on dit moteur, bah, il joue le rôle. Et puis quand la lumière s'éteint, bah, il redevient, je sais pas, un peu... je ne saurais pas dire en ce qui me concerne, mais très exigeant, jamais satisfait, toujours en train de courir, pas très disponible. Bon, l'autre signal, c'est le sommeil quand même. C'est-à-dire que moi, ça faisait un moment que je m'étais habitué à dormir peu, à travailler beaucoup. Donc, c'était venu grignoter je ne sais pas comment dire ça, de la sérénité profonde. Voyez. Donc, après, ça avait eu un effet boule de neige. Mais je m'étais habitué à aller pas très bien. C'est-à-dire, je mangeais pas très bien, j'avais des difficultés que je raconte dans le bouquin d'ordre de métabolisme général. Mais vous savez, vous avez plein de symptômes dispersés, mais vous vous habituez à bricoler un truc avec. Moi, je suis frappé du nombre de gens qui, en fait, sont dans des états... Alors, pour certains, c'est du burn-out, pour d'autres, c'est de la dépression, pour d'autres encore, c'est du désœuvrement, de l'ennui dans leur boulot. Il y a plein de formes différentes, mais ce qui me frappe, c'est qu'on bricole tous quelque chose pour surtout pas voir qu'on va mal. Et moi, le jour où je me suis pris en charge et je me suis dit, voilà, je vais pas bien et ça peut pas continuer comme ça, ça a été une libération.
Ça a eu d'autres conséquences physiques peut-être sur vous ça peut se traduire d'autres signes de...
La perte de désir, je pense. Moi, ça a pas été jusqu'à des états d'angoisse suicidaire. Mais oui, c'est en tout cas, vous avez plus envie, quoi. Vous levez le matin et vous savez pas pourquoi vous allez prendre le métro. Puis vous êtes devant le métro, les portes s'ouvrent et vous vous rappelez pas pourquoi vous prenez le métro. Donc ça, c'est très vertigineux quand je le raconte comme ça. Je souhaite à personne de le vivre, mais je souhaite surtout à personne de nier que ça peut être une bonne nouvelle quand on le vit. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à vivre parce que oser plonger, c'est découvrir qu'il y a un fond dans la piscine et qu'on peut remonter. Tant qu'on s'empêche de plonger, tant qu'on s'empêche d'aller mal, on s'empêche aussi d'aller bien. Et l'entreprise est remplie de gens qui bricolent un truc, qui vont ni bien ni mal et qui, du coup, sont jamais vraiment présents, quoi.
Et là, ça doit être compliqué, c'est de se dire et de s'avouer qu'on va mal.
Ouais, tout
à
fait.
On peut vivre des années en se disant ça va pas très bien, mais comment on franchit le pas?
Déjà, en arrêtant de se plaindre. Je pense qu'un des pièges, c'est d'être dans la plainte. On sait très bien que parfois... il y a quelque chose de plus profond que la plainte qui est de se prendre en charge, de se responsabiliser, de découvrir qu'on peut faire quelque chose de sa souffrance, notamment de la douleur physique, et que au fond de la douleur, moi j'ai rencontré aussi un état de bien-être. C'est bizarre de le dire comme ça, mais je pouvais me dissocier de mes douleurs dans le ventre, par exemple. Je pouvais être insomniaque une nuit et arrêter de paniquer. Je pense que la douleur, elle est dans la tête. Alors, beaucoup d'auditeurs pourraient en témoigner. Je pense que la douleur, elle est d'abord dans la représentation qu'on s'en fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'entretenir un rapport avec la souffrance qui était un petit peu plus adulte. Et puis une autre chose, c'est de savoir s'entourer, quoi, de demander de l'aide. Moi, je m'en serais pas sorti tout seul. d'aller voir des personnes qui dont le métier est de reconnaître, de diagnostiquer et d'apporter une aide éventuellement médicamenteuse aussi.
L'entourage a eu un rôle important. Ça les a surpris.
Alors il y a eu à boire et à manger. Il y a eu à boire et à manger. C'est moi que ça a surpris. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui voulaient surtout pas entendre que Thierry Chavel allait mal. C'était pas possible. C'était juste complètement hors jeu, quoi, parce que j'étais censé incarner une espèce de figure de soutien aux autres. J'ai eu des confrères qui m'ont culpabilisé, qui ont essayé de me culpabiliser, avec les meilleures intentions du monde, mais vous savez, qui vous disent, ah, mais évidemment, tu l'as bien cherché. Ça fait longtemps que je te disais que tu aurais dû faire un stage ayurvédique ou que tu devrais prendre telle plante ou que tu devrais aller voir tel gourou. Et pourtant, j'en avais fait des choses. Hein. Donc, je pense qu'il y a une espèce de croyance que c'est contagieux, la déprime professionnelle, qu'on l'appelle burn-out ou pas. Une espèce de sentiment de secret, faut pas trop le dire. Et puis, la troisième chose qui m'a frappé, c'est qu'on réagit pas pareil face à ça, que l'on soit un homme ou une femme. Je pense que c'est particulièrement tabou pour les hommes.
C'est-à-dire ?
Boys don't cry. C'est la chanson de Cure, quoi. Les hommes pleurent pas, ça se fait pas. Vous allez quand même pas dire que vous êtes un père de famille qui avait envie de pleurer tout le temps, que vous avez plus envie d'aller bosser. C'est extrêmement... Il y a un interdit très très fort qui pèse là-dessus en Occident. Et moi, j'avais zéro retenue là-dessus. Je veux dire, j'avais aussi ma femme qui m'a dit à plusieurs reprises, écoute, je vois que tu vas pas bien et je sais pas comment t'aider. Et ça m'a aidé. C'est la chose qui m'a le plus aidé. C'est-à-dire que quelqu'un reconnaisse ma fragilité, attendent rien de moi, me disent implicitement, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis là pour toi, quoi. Et ça m'a aidé à me prendre en charge.
Alors, votre livre, il s'intitule « Je peux guérir », publié chez Flammarion. On peut vraiment en guérir ?
Je sais pas bien de quoi on peut guérir. Moi, je sais que je peux guérir de l'idée de guérir les autres. Ça, je peux vous dire, Jean-Baptiste, ça a été une révolution dans ma tête. D'arrêter de croire que dans mon goût des autres... Je pouvais être tout puissant. Je pense que c'était très inconscient, mais j'avais un ego spirituel très sophistiqué, quoi. Voilà. Donc, arrêter de guérir les autres de mes propres maux, ça a été une vraie guérison.
Et qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, à partir de ce moment-là, là, de cet été où vous êtes effondré, on va dire, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller mieux ?
Plusieurs choses. D'abord, le fait de voir passer le temps au lieu de courir après le temps. Donc, de m'autoriser des moments dans lesquels il se passe rien. Je peux accompagner mes enfants à l'école, mais prendre le temps de les accompagner, pas être dans ma tête sur le mail que je dois écrire, vous voyez, être vraiment présent à l'instant présent. Plus symboliquement, ou plus, je veux dire, plus prosaïquement, je déjeune avec chacun, j'ai trois enfants, et je déjeune avec chacun d'eux, à tour de rôle, une fois par mois, à peu près. Et ce temps, il est sanctuarisé maintenant. C'est-à-dire que c'est un vrai moment. Il y a des semaines où je me dis, tiens, cette semaine, je déjeune avec ma fille, c'est génial. Donc, je pense que mon centre de gravité a changé. C'est-à-dire qu'avant, mon centre de gravité, c'était la vie professionnelle. Et puis, j'avais à côté plein de satisfactions personnelles. J'écrivais déjà, j'enseignais, familiales, bien sûr. Là, maintenant, mon centre de gravité, c'est ma vie privée. C'est-à-dire le cinéma, c'est essentiel. Lire des romans, c'est essentiel. Écrire, c'est essentiel. Passer du temps à ne rien faire avec mes proches, c'est essentiel. Le boulot, c'est grisant, mais ça n'est plus essentiel.
Du coup, vous avez dû apprendre à savourer ces moments, à vivre au présent, c'est ça un peu ?
Ah, mais non, complètement, c'était une rééducation pour moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je raconte dans le bouquin, qu'il y a je ne me suis pas arrêté très longtemps, hein, je me suis arrêté 2 semaines, mais il y a une après-midi où je commence à sortir, on était en juin, donc il faisait très beau à Paris, et j'étais frappé de voir qu'il y avait des gens qui marchaient lentement dans les rues de Paris. Mais vraiment, j'avais l'impression de venir d'une autre planète. Je me rendais compte qu'entre 9h et 20h, il y avait une vie, quoi, à côté du bureau et de la Défense. Il y avait des gens qui prenaient un café, une terrasse de café. Au début, j'avais envie de leur dire, bon, vous allez être en retard. Mais vraiment, quoi. Et petit à petit, je me suis appris à aller plus lentement. J'ai appris à aller plus lentement. À découvrir que je pouvais avoir des douleurs et que c'était pas très grave. À plonger vraiment. Alors là, il y a des techniques de respiration qui sont très, très intéressantes. C'est-à-dire de respirer à l'intérieur de la douleur. Quand on va pas bien, on peut prendre des médicaments. Moi, j'avais une capacité à me gaver de dopants pour aller bien. Et puis, on peut accueillir la douleur et voir que derrière la douleur, il y a parfois la possibilité de poser un peu le mental et puis de découvrir qu'il y a des personnes autour de nous qui vont peut-être plus mal. Moi, ça a fait grandir ma compassion aussi, je pense.
Et tout ça, ça a pris du temps. J'imagine que c'est pas du jour au lendemain que vous avez changé vos habitudes, vos...
Oui, ce qui a pris du temps, c'est la reconstruction, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par une phase d'effondrement, d'épuisement, pour rebâtir. Mais c'est pas moi qui ai rebâti. le message que moi j'ai envie de transmettre aussi, c'est que c'est une extraordinaire aventure de lâcher prise à un burn-out. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, il y a juste un signal qui passe par le corps qui me dit voilà, est-ce que tu as envie de continuer à ce régime-là ? Donc, c'est quelque chose qui frappe à la porte. Est-ce qu'on ouvre la porte ou est-ce qu'on n'ouvre pas la porte ? Moi, il a fallu que ça frappe fort pour que j'ouvre la porte. Mais c'est vrai que ça a pris du temps et c'est pas venu de moi. Moi, je me suis contenté de lâcher prise, d'accepter que l'énergie reviendrait.
En fait, il faut apprendre à écouter son corps, les signaux, des choses qu'on nous apprend pas forcément. Ça, peut-être
Oui, je disais tout à l'heure que c'est particulièrement difficile pour un garçon, je trouve. Il faut apprendre à s'intérioriser. Moi, ça m'a appris à m'intérioriser, c'est-à-dire à être attentif. Vous savez, par exemple, il est 17h, vous êtes en rendez-vous et vous sentez une fatigue qui gagne. Vous sentez que vous bâillez, vous sentez que vous avez du mal à vous concentrer. Bah, jusqu'ici, moi, j'avais tendance à passer outre, à prendre un thé, à prendre du café, vraiment à me forcer à être présent. Là, ben voilà, j'accepte d'être dans un moment un peu down. Je peux éventuellement faire une pause, faire travailler mon client sur un exercice et pendant ce temps-là, aller m'allonger pendant 5 minutes. Voilà. C'est des toutes petites choses au quotidien, mais qui changent complètement la vision que j'ai d'être humain. C'est-à-dire, être humain, c'est être fragile. On ne peut pas être au top tout le temps.
Thierry Chavel, restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui. Votre livre s'intitule « Je peux guérir », c'est publié aux éditions Flammarion.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin du jour s'appelle Thierry Chavel. Vous nous présentez donc ce livre qui s'intitule « Je peux guérir » publié aux éditions Flammarion. Vous nous racontez comment vous avez pu vous soigner après un burn-out. Hein, on va dire ça comme ça, peut-être pas guérir, mais comment on se soigne du burn-out. Vous êtes coach professionnel, à force de prendre soin des autres, vous avez négligé de prendre soin de vous. Justement, votre travail aujourd'hui, donc vous faites toujours le même métier, vous êtes toujours coach professionnel,
oui.
Mais comment vous l'exercez ? Quelle différence par rapport à avant ?
Déjà, je prends moins de rendez-vous. C'est-à-dire que je m'autorise à refuser certains clients quand c'est au-dessus de mes forces ou quand je ne sens pas. Je fais beaucoup plus confiance à mon intuition. Et je pense qu'il faut beaucoup d'intuition pour ce métier. Donc, quand je sens que c'est compliqué ou quand je sens que la personne est trop miroir de ma propre fragilité, je décline poliment. Autre chose aussi, c'est que je me mets moins dans une situation un peu prométhéenne, c'est-à-dire de devoir porter sur mon dos, devoir donner le maximum, un maximum de feedback, un maximum d'écoute. Voilà, j'ai moins l'impression de courir un sprint à chaque seconde. Donc je laisse venir ce qui doit venir. Il y a des clients qui sont manifestement très content juste de déposer ce qu'ils doivent déposer. Je fais plus confiance à, je sais pas très bien comment appeler ça, mais un flux de bienveillance, un flux d'amour inconditionnel qui circule dans mon métier comme dans d'autres. Voilà, après, je saurais pas dire. Je pense que le fait d'avoir écrit le bouquin modifie aussi les personnes qui viennent à ma rencontre. J'ai des clients qui m'en ont parlé. Et au début, j'avais très peur. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser d'un coach qui raconte sur toutes les ondes que lui-même il va pas bien. Et je me rends compte qu'il y en a qui sont au contraire très heureux de ce témoignage, qui me disent mais vraiment c'est super de partager ça parce que ça donne à voir, ça donne à entendre que le monde de l'entreprise c'est un monde où il y a exactement les mêmes failles que partout ailleurs.
Est-ce que vous avez pris un peu plus aussi de recul avec les histoires de vos clients ? Parce que j'imagine que écouter, entendre des histoires qui sont parfois difficiles, ça doit avoir un impact sur vous, même si inconscient, peut-être que c'était inconsciemment toutes ces années, mais...
C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'était inconsciemment. En tout cas, c'était accumulé. C'est-à-dire que ça s'était empilé au fil des ans et j'avais plus trop conscience que c'était venu me polluer, quoi. Ce qui est vrai, c'est que j'ai moins la vocation d'une éponge. Je me raconte moins que je peux absorber. J'ai des rituels. Par exemple, je vais me laver les mains en conscience entre deux rendez-vous en me disant qu'en me lavant les mains, c'est pas Ponce Pilate, hein, mais je me sépare de l'histoire de la personne que je quitte. Je vais allumer des lumières dans mon bureau quand j'ai besoin d'une énergie guérissante. Enfin voilà, je vais utiliser un certain nombre de talismans plus ou moins visibles pour me dire c'est pas moi qui dois tout faire. Voilà, je m'en remets aussi à plus grand que moi. Alors plus grand que moi, ça dépend du référentiel de chacun, mais ça va être juste la qualité de la présence, ça va être aussi la confiance que je fais à mon client. Je crois que chacun est dépositaire de ses propres ressources. Et donc, c'est pas moi qui peux les guérir sans leur aide. C'est à eux de se guérir.
Vous avez peut-être... Vous êtes peut-être allé voir quelqu'un ou est-ce que vous avez besoin d'évacuer ça? Est-ce que vous avez déjà suivi une analyse, une psychanalyse?
Si vous saviez, moi j'ai fait ma première psychanalyse à 18 ans. Donc j'en ai fait des thérapies, j'en ai fait des choses. Ça, c'était pas lié au burn-out. Je pense même que parfois on peut faire des thérapies pour masquer, pour mettre peut-être pas un baume sur une jambe de bois, mais en tout cas un patch qui évite d'aller trop mal. Non, ce qui a changé, c'est que d'abord j'ai osé téléphoner à des amis psychiatres quand vraiment j'allais pas bien, quand j'avais des symptômes que je comprenais pas, avoir des vertiges, j'ai pas eu d'hallucinations, mais c'était l'étape d'après. Et j'ai une amie psychiatre qui m'a dit un jour, écoute, tu devrais prendre tel médicament, ça va t'aider à retrouver du sommeil, à tasser un peu l'angoisse. Donc ça, c'est une chose qui a changé. Sinon, j'ai pas arrêté d'être supervisé. On est supervisé dans mon métier. Donc c'est comme les psychanalystes qui ont quelqu'un qui les psychanalyse. Et ça, j'ai pas intensifié les séances, mais elles sont toujours aussi sanctuarisées, c'est sûr.
Alors. Je vais vous citer, hein, parce que j'aime beaucoup cette formule. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes un jardinier du développement personnel et que ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'on l'a fait pousser. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette magnifique formule?
Elle n'est pas de moi, elle est d'un confrère bouddhiste. Il y a la tentation dans le monde de l'entreprise d'avoir des obligations de résultats partout. C'est-à-dire que même si le coaching, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on aide la personne à aller mieux, il y a quand même une attente implicite de l'aider à se remettre en selle, quoi. Et moi, je me rends compte que la patience, c'est plus important que la résilience. C'est-à-dire que la résilience, c'est très bien parce que c'est ce qui fait que on traverse les épreuves comme des enseignements. Et donc, aller mal nous permet d'aller mieux. Mais d'abord, tout le monde peut pas être résilient. Et que moi, à force d'être résilient, j'étais survivant. J'étais pas vraiment vivant, comme je disais tout à l'heure. Donc, la patience, c'est la meilleure arme pour... Voilà, pour laisser l'air pousser, pour regarder l'air pousser, pour regarder que c'est pas la première fois qu'on est dans une situation qu'on rencontre. Moi, mon credo, c'est la maïeutique. La maïeutique, c'est l'accouchement des autres à partir de leurs propres ressources. Voilà, donc c'est comme un jardinier, la maïeutique. On prend soin de la nature, on n'est ni l'eau, ni l'humus, ni la plante, on est peut-être l'arrosoir. Voilà, je suis un peu un arrosoir arrosé.
D'accord, et il faut apprendre à prendre du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait penser facile, mais ce n'est pas forcément facile. Vous, dans votre vie privée, vous vous êtes mis au sport, vous avez pris vous faites plus de choses pour vous?
Oui, je me suis mis à la course à pied. Alors ça, je pense que c'est une nouvelle addiction. Je pense que je suis éternellement addict, mais j'ai des addictions de moins en moins dangereuses pour ma santé psychique. La course à pied, j'ai découvert que j'avais arrêté ça pendant 20 ans, parce que je m'ennuyais, puis je courais en écoutant de la musique, et un jour ça m'est revenu, et je cours 20 km par semaine, et voilà, j'oublie tout, je suis dans la nature, juste la sensation du sol sous mes pieds, selon les saisons, c'est un bonheur.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça m'apporte plusieurs choses. D'abord, je me rends compte que je suis capable de courir sans me faire du mal. Je suis pas obligé de me faire du mal pour aller bien, parce que j'ai des bonnes chaussures, j'ai un bon équipement, donc c'est 1h40 par semaine où je pense à rien. Mais quand je dis à rien, quoi. Je compte vaguement le nombre de tours du jardin que je fais. Et puis, je vous dis, je regarde les couleurs des fleurs, je sens les odeurs des arbres selon les saisons. Enfin, c'est vraiment une expérience bucolique, quoi. C'est vraiment une expérience dans la nature. Je pourrais marcher, moi je cours, mon truc c'est de courir, je pense que je suis éternellement un hamster, mais j'ai arrêté de courir sur la roue, je cours dans un jardin.
Thierry Chavel, restez avec nous, on va donner la parole à nos auditeurs, ils ont été quelques-uns à nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux, c'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Patricia qui nous écoute dans le 12e arrondissement, elle vous demande si votre burn-out est en lien avec votre histoire personnelle et votre enfance ou votre adolescence. Est-ce que le burn-out peut avoir un lien avec notre vie, notre vie personnelle?
Alors dans mon cas, totalement. Je pense que c'est même des poupées russes, c'est-à-dire que le burn-out, c'était, j'avais une prédisposition dans le souci des autres. Moi j'étais un contemplatif contrarié. Et j'ai mis du temps, mais le burn-out, ça m'a permis aussi d'aller exhumer des blessures qui n'étaient pas résolues. Je raconte dans le livre que petit à petit, j'ai découvert que j'avais probablement une famille en partie dysfonctionnelle, donc j'étais un peu un enfant doué. Un enfant doué, c'est quelqu'un qui prend sur soi, qui s'occupe des autres, qui est un très bon élève, qui, à force d'être un très bon élève, préfère faire ses devoirs que prendre du plaisir. Donc ça a été un effet un peu de domino. Et de proche en proche, oui, je pense que j'avais un terrain un peu névrotique et surtout un terrain de fragilité très particulier, dont le burn-out m'a libéré. C'est ça aussi qui est magique. C'est-à-dire que grâce au burn-out, j'ai ouvert des choses que je n'avais pas été ouvert. Et j'ai
c'est vraiment une libération pour vous, quoi.
Oui, oui, c'est une naissance. Enfin, je crois que c'est vraiment une naissance. Vous savez, on dit faire connaissance. Moi, je pense que j'ai recommencé à aimer la vie que je menais. C'est comme un petit réveil. Moi, ça m'a réveillé. J'étais dans une espèce de torpeur tout à fait grisante, mais je n'étais pas vraiment présent à ma vie. Je passais un peu à côté en m'occupant de la vie des autres.
On a une autre question, Thierry, de Mathilde de Paris 17e. Elle nous dit « Ne rien faire m'angoisse, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. » Est-ce que vous pourriez donner un conseil à cette auditrice ?
Moi, je suis incapable de donner des conseils, encore plus depuis le burn-out. Je peux juste témoigner ce que ça m'évoque. Ça me parle du bore-out, qui est un peu l'autre facette du burn-out. Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent au lendemain ce qu'ils devraient faire. C'est Mathilde. Peut-être que ce qu'elle peut regarder, c'est quelle est la première fois qu'elle a ressenti cette chose-là ? Est-ce que ça remonte à il y a longtemps ? Est-ce qu'il y a eu un fait générateur ? Et est-ce qu'elle peut se rappeler une fois où, à l'inverse, elle était dans une situation de grande joie intérieure ? Est-ce qu'il y avait des conditions favorables ? Est-ce qu'elle peut recréer ces conditions ? Donc voilà, il y a mille et une façons d'aller bien et on regarde un peu trop les mille et une façons d'aller mal. Moi, je pense que c'est important de regarder aussi les situations où elle va bien.
Parce qu'il y a aussi, donc elle dit que ne rien faire l'angoisse, mais il y a aussi des gens du coup qui vont faire plein d'activités pour avoir un emploi du temps surbooké, mais qui ne font rien aussi. À force de vouloir trop faire de choses, c'est un risque.
Exactement, et surtout qu'ils font rien qui ait du sens. C'est-à-dire qu'ils se sentent vidés à mesure qu'ils font des choses. Vous savez, c'est un peu... Certains sportifs témoignent du fait que, je crois que c'est dans son autobiographie, André Agassi, il raconte que depuis tout petit, depuis l'âge de 4 ans, son père, qui était un croupier à Las Vegas, le mettait sur un terrain de tennis et le forçait à jouer au tennis. Et pendant des années, à chaque fois qu'il rentrait dans un tournoi, dans un match, il vomissait juste avant, pour vous dire le dégoût qu'il avait de lui-même et de ce sport. Ben voilà, donc c'est pas parce qu'on fait quelque chose en sur-régime qu'on aime le faire. Et je trouve que cet interstice-là, il est douloureux, mais il est libérateur quand on le découvre.
Thierry Chavel, merci beaucoup d'être venu témoigner sur Vivre FM. Je rappelle votre livre « Je peux guérir », c'est publié aux éditions Flammarion. Un livre à mettre entre toutes les mains, on va dire ça comme ça, parce que c'est un sujet qui concerne nos auditeurs et puis tout le monde. Merci beaucoup Thierry Chavel.
Merci à vous Jean-Baptiste.
Vivre FM, podcast.